Chapitre 19. Faré n'avait pas perdu de temps pour reprendre le train et il courait sur Paris en réfléchissant aux difficultés de leur situation, car s'il n'avait pas répondu à Geneviève lui disant « Dans 2 mois, je serai votre femme », il n'imaginait pas que les choses allaient marcher ainsi. Il n'était pas du tout sûr que, parce qu'il était l'auteur applaudi de Châtelard et de Sylvie, M. de Mussidan allait être heureux de lui donner sa fille. Et, d'autre part, il semblait que, précisément parce qu'il était l'auteur de pièces de théâtre, Mademoiselle de Puylaurens ne devait pas être disposée à lui donner sa nièce. À la vérité, il pouvait se passer du consentement de la tante s'ils avaient celui du père. Mais alors, c'était une rupture avec Mademoiselle de Puylaurens, ce qui serait un chagrin pour Geneviève. Quant à lui, il se trouvait placé dans des conditions telles qu'il devait souhaiter cette rupture plutôt que la craindre, car, en se fâchant avec sa nièce, Mademoiselle de Puylaurens la déshériterait, et alors il devenait plus facile pour lui d'épouser Geneviève pauvre que Geneviève riche. Et ce qu'il voulait dans ce mariage, ce n'était pas la fortune, c'était sa chère petite Geneviève. Le rôle que Geneviève lui avait réservé n'était donc pas aussi simple à remplir qu'elle semblait le croire, et il ne fallait l'aborder qu'avec prudence. Ce fut à le composer qu'il employa le temps du voyage. Il avait décidé que le mieux était de s'entendre tout d'abord avec Madame de Mussidan. Mais lorsque, dans ce but, il se présenta place d'Ancourt à une heure où jamais on ne trouvait le comte, il eut la mauvaise chance de rencontrer celui-ci dans l'escalier, sortant. « Eh bien, vous êtes encore un joli garçon, vous !» dit Monsieur de Mussidan d'un ton fâché. Faré tomba des nues. Il avait quitté Monsieur de Mussidan de belle humeur, fier du succès de Châtelard et de Sylvie, comme si les pièces étaient de lui, et il le retrouvait fâché. Que s'était-il passé? Madame de Mussidan avait-elle fait une tentative malheureuse? Comme il regardait Monsieur de Mussidan avec une curiosité inquiète, celui-ci continua. « Vous êtes un lâcheur, tout simplement. »« Comment cela ?»« Je vous dis que vous êtes un lâcheur, mon jeune ami. » « Qu'ai-je donc fait ?» Monsieur de Mussidan n'était pas homme à interrompre sa promenade pour son jeune ami. Il avait donc continué de descendre l'escalier accompagné de Faré. Arrivé sur le trottoir, il mit sa carne au port d'armes, cambra sa taille en effaçant les épaules de son air vainqueur qui défie les années et, ayant pris le bras de Faré, il continua. « Je n'ai pas à vous dire, n'est-ce pas, que vous avez toujours été de mes amis ?» « Certes non, monsieur le comte, et je sais tout ce que je dois à votre bienveillance. »« Il suffit, ne me remerciez pas. C'était bien naturel. Du jour où je vous ai connu, j'ai vu tout de suite que vous iriez loin. Je ne me trompe pas sur les hommes qui ont quelque chose en eux. Sur les autres, sur les nullités, c'est différent. Mais quand un homme a une lueur en lui, je sais la distinguer. Je n'ai donc pas attendu votre succès pour reconnaître votre talent. » Monsieur de Mussidan oubliait que, 15 jours auparavant, il raillait son jeune ami sur ses petites machines qu'on ne voulait décidément pas jouer, ce dont il ne pouvait pas blâmer les directeurs, car s'embarquer avec 2 grandes pièces d'un inconnu qui n'avait pas d'autres titres à faire valoir que d'être gardénia était bien imprudent. Mais Faré se garda de lui rappeler ses railleries. « Ce talent, continua Monsieur de Mussidan, je l'ai affirmé hautement, non seulement parce que j'avais foi en vous, mais encore parce que je vous aimais, et votre aventure, c'était la mienne. »« Oh, monsieur le comte !» dit Faré, se laissant prendre à cette parole chaleureuse. « Vous n'avez jamais douté de ma sympathie, je l'espère, et vous lisez trop bien dans le cœur humain pour n'avoir pas vu les sentiments d'affection paternelle pour vous que je portais dans le mien. Je vous ai quelquefois rudoyé, quelquefois raillé, mais cela vous était utile. » Ils approchaient d'un bureau de tabac. « Avez-vous un cigare ?» demanda M. de Mussidan, s'interrompant. « Non, mais je vais en prendre quelques-uns, si vous permettez. » Et, sans attendre la permission, Faré entra dans le débit de tabac, d'où il ressortit la main pleine de beaux cigares qu'il tendit au comte. Celui-ci en choisit 5 ou 6 qu'il mit dans sa poche, puis, en ayant allumé un, il continua. Je vous ai donc soutenu de toutes les manières, et avant même qu'on joue à vos pièces, j'ai affirmé leur mérite. Vous auriez été mon fils, que je n'aurais pas parlé de vous autrement. Cela m'a si bien posé pour votre ami que, vos pièces jouées, on m'a demandé à les voir, et quand je vous ai cherché pour vous prier de mettre quelques places à ma disposition, je ne vous ai point trouvé. Voilà pourquoi je vous accuse d'être un lâcheur. J'ai été obligé de faire un petit voyage, mais maintenant me voici tout à vous. Alors, c'est différent, vous êtes pardonné. Voici ce qu'il me faut. Et pendant que M. de Mussidan lui expliquait ce qu'il lui fallait, ce qui fut assez long, Faré se demandait s'il ne devait point profiter des bonnes dispositions dans lesquelles il le trouvait pour risquer sa demande. Pourquoi ne serait-elle pas sincère, ses assurances d'amitié? Sans doute, le succès de Châtelard et de Sylvie leur donnait un caractère particulier, mais n'avait-il pas lui-même, justement, mis ses espérances dans ce succès? Que gagnerait-il à attendre? La fortune lui semblait favorable en ce moment, il ne devait pas la laisser passer. Il se décida donc. Ils étaient sur le boulevard où ils pouvaient s'entretenir à peu près librement. « Je ne saurais vous dire, commença-t-il, combien je suis heureux de l'amitié que vous me témoignez. Elle est sincère, et si je vous ai traité autrefois en gamin, je vous considère maintenant comme un homme de grand talent, d'un talent que je suis fier d'avoir deviné quand personne encore ne le soupçonnait. Dans l'avenir glorieux qui s'ouvre devant vous, vous serez heureux de vous rappeler cela. Vous pourrez vous dire que, quand vous doutiez de vous-même, il y avait quelqu'un qui avait foi en vous, et que ce quelqu'un, c'était le comte de Mussidan. Est-ce que, sans cette confiance, je vous aurais accueilli chez moi comme je l'ai fait ? » Et, s'arrêtant, il lui serra la main. « En ami, en père !» Faré n'était plus assez jeune pour accepter naïvement tout ce que M. de Mussidan lui disait. Mais, d'autre part, il n'était pas assez sceptique non plus pour n'en pas croire un seul mot. Évidemment, il y avait une part de vérité dans ses paroles chaleureuses, comme il y avait une part de sympathie sincère dans ses effusions. En ce moment, M. de Mussidan l'aimait réellement, et c'était ce qu'il pouvait désirer de mieux pour le succès de sa demande. Il devait donc la présenter sans tourner davantage, ce qu'il fit. « Cette amitié, dit-il, et la confiance qu'elle vous inspire en mon avenir, il sera superbe !» me décide à vous faire un aveu que je ne dois plus différer. Un aveu ? J'aime depuis longtemps Mademoiselle Geneviève. Geneviève ? Et je vous la demande pour femme. Vous aimez ma fille, vous ? Je l'aime. Et vous me la demandez, vous ? Elle est d'âge à se marier. Et vous m'adressez cette demande, ici, dans la rue ? J'ai été entraîné par l'amitié que vous me témoignez. Ah ça, est-ce que le succès vous a rendu fou ? Et M. de Mussidan l'examina avec un air de pitié. Voyons, mon cher garçon, ce n'est pas sérieusement, n'est-ce pas, que vous vous êtes imaginé que moi, comte de Mussidan, je pouvais vous donner ma fille à vous, Ernest Faré ? À une question ainsi posée, Faré ne pouvait répondre qu'en blessant M. de Mussidan dans son orgueil et sa vanité. Il se tut. « Je ne veux pas vous humilier, » continua M. de Mussidan d'un ton adouci. « Je laisse donc de côté cette considération que vous pèserez dans votre conscience. Mais il en est une autre qui, sans doute, ne s'est pas présentée à votre esprit. Celle que vous voudriez épouser n'est pas seulement la fille du comte de Mussidan, elle est encore la nièce et l'héritière de Mademoiselle de Puylaurens, une vieille fille qui lui laissera une belle fortune. » Sur ce point, Faré pouvait répondre. C'est pour elle que je l'aime, non pour sa fortune. Je ne vous demande pas de dot. Je vais maintenant gagner assez pour lui assurer une position convenable qui, je l'espère, ira en grandissant. Alors, décidément, s'écria M. de Mussidan, vous êtes plus jeune que je ne croyais, et pourtant vous avez du talent. Mais, monsieur le comte, restons-en là, je vous prie. Je tâcherai d'oublier votre demande. Vous, de votre côté, oubliez votre rêve. Au revoir. » Et d'un geste plein de noblesse, M. de Mussidan arrêta Faré. Puis il s'éloigna dignement. Un moment abasourdi, Faré se mit en route pour remonter à Montmartre et voir Madame de Mussidan. Il la trouva chez elle et lui raconta ce qui venait de se passer. « Pourquoi ne m'avez-vous pas fait part de votre projet ? » dit-elle tristement. « Je le voulais, j'ai été entraînée. » « Ah, cette fortune de mademoiselle de Puy-Laurence » s'écria-t-elle. « Il est écrit qu'elle fera le malheur de toute la famille. Après le père et les fils, c'est la fille maintenant, c'est vous, c'est moi, dont depuis 15 ans elle a empoisonné la vie. » « Mais je n'en veux pas de cette fortune, et j'espère bien que mademoiselle de Puy-Laurence va renoncer à son idée de testament. » « Cela seul peut amener votre mariage, car tant que M. de Mussidan s'imaginera que sa fille, qui n'a que 15 ans, héritera demain de cette fortune, il ne la mariera pas. C'est à Cordes que votre mariage se décidera. » Ce cri lui avait échappé. Elle s'arrêta, honteuse d'en avoir tant dit.